Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Les armées congolaises et ougandaises vont sécuriser des matériels et les personnels engagés dans les travaux de construction des routes Kasindi Beni Butembo et Bunagana Rutshuru par l'entreprise indienne basée en Ouganda. Le coordonnateur des opérations conjointes FRDC-UPDF contre les ADF l'a annoncé à son retour de l'Ouganda après la signature de l'accord pour la prolongation de ces opérations. Lancement ce samedi d'une campagne provinciale de dons bénévoles de sang pour soutenir les FRDC. L'initiative est du Centre provincial de transfusion sanguine du Nord Kivu et il vise les donneurs réguliers et aussi tous les potentiels donneurs dans cette province. Pete Nandaliko est l'invité de Radio Okapi ce midi. Il est le directeur artistique des rencontres d'Ishango, lancé hier vendredi à Goma. Festival connu depuis plusieurs années sous l'ancien nom de Salam Kivu International Film Festival, skif en sigle. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. Commençons par le Nord Kivu. La sécurisation des matériels et des personnels engagés dans les travaux de construction des routes Kasindi Beni Butembo et Bunagana Rutshuru par l'entreprise indienne basée en Ouganda, Dot Service Limited, sera assurée par les armées congolaises et ougandaises. L'annonce a été faite hier vendredi par le coordonnateur des opérations conjointes des FRDC et UPDF contre les ADF après son retour de l'Ouganda où a eu lieu la signature de l'accord de la prolongation de ces opérations. Le général-major Camille Bombele a également précisé que 40% de la main-d'œuvre sera ougandaise et 60% congolaise pendant ces travaux. On l'écoute au micro de la presse des FRDC.
Je viens de faire une petite réunion avec le manager ici sur place, qui est le responsable de la société DOT ici en RD Congo. Selon les conventions faites avec les deux gouvernements, il y a 40% des travailleurs qui doivent venir de la République et celle de l'Ouganda et 60% de la République démocratique du Congo. Et je dois veiller à ce que ces quotas-là soient respectés parce que, à part les besoins économiques, sécuritaires, il y a aussi les besoins sociaux. Nous allons sécuriser des Kasindi, Beni jusqu'à Butembo et ce sera de même aussi du côté de Bunagana, Rutshuru, du côté de la République démocratique du Congo, il y a sa troupe, les FRDC, et du côté de l'Ouganda, il y a l'UPDF, toujours dans le cadre des opérations conjointes.
Rappelons que le 16 juin de l'année dernière, les présidents Tshisekedi et Museveni avaient lancé les travaux d'asphaltage des axes routiers Kasindi Beni Butembo et Bunagana Rutshuru Goma au Nord Kivu, long de 223 km. Le coût total des travaux est d'environ 300 millions de dollars, financé à hauteur de 60% par Dot Service Limited, une entreprise indienne basée en Ouganda, et 40% par la RDC et l'Ouganda. Parlons encore route au Nord Kivu. Il y a eu remise officielle hier, vendredi, de la route réouverte et réhabilitée par la MONUSCO, reliant la localité de Mavivi jusqu'à Mbutaba à Beni. Cette route est importante sur les plans sécuritaires et sociaux et était enclavée depuis plusieurs années. Marc Marofimbo pour le reportage.
Long de 12 km, cet axe routier presque inexistant, où seuls les motocyclistes pouvaient emprunter difficilement, est désormais praticable grâce à sa réhabilitation par la MONUSCO. Une satisfaction de Jacques Manoku, chef de quartier Mbutaba.
Permettez-moi de remercier la MONUSCO suite à la réhabilitation de notre route de desserte agricole qui nous relie avec le quartier Sayo à passer par Mbutaba.
Satisfaction également du maire de Beni qui reconnaît l'importance de cette route réhabilitée. Le commissaire supérieur principal Narcisse Kacharemuteba.
Une route qui présente des avantages d'ordre économique, développement, mais aussi surtout sécuritaire.
Pour la chef du bureau de la MONUSCO à Beni, cette route facilitera l'accessibilité et la sécurisation de la zone. Cécilia Piazza.
Le projet a été réalisé en vue d'améliorer l'accessibilité de cet axe à ses divers usagers qui sont notamment des agriculteurs. La route était difficilement accessible auparavant. Aujourd'hui, elle est accessible par véhicule et nous espérons que cela va permettre une plus grande sécurisation de la zone.
Financé par la MONUSCO à la hauteur de 89 000 dollars américains, dans le cadre du projet de la réduction des violences communautaires de la MONUSCO, les travaux de réhabilitation de cette route ont été exécutés par l'organisation locale Conseil contre la pauvreté. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Le Centre provincial de transfusion sanguine du Nord Kivu vient de lancer ce samedi à Goma une campagne provinciale de dons bénévoles de sang pour soutenir la FRDC. Ce don de sang se fait au niveau des centres de transfusion sanguine de Goma, Rutshuru, Butembo et Beni, selon le médecin coordonnateur de ce centre. Docteur Liliane Buiza précise que cette campagne concerne non seulement les donneurs réguliers, mais aussi tous les potentiels donneurs. Docteur Liliane Buiza estime par ailleurs que le don de sang en faveur des militaires est un geste fort de soutien à l'armée qui défend la nation. Elle est au micro de Rosalie Zawadi.
Dans cette période ici où notre province traverse une turbulence sécuritaire, nos militaires au front, ils ont besoin vraiment du sang. Du sang, c'est une composante qu'on ne peut pas trouver dans de pharmacies ou au marché. Donc c'est notre devoir en tant que patriotes de venir soutenir nos militaires, raison pour laquelle nous revenons encore auprès de nos donneurs de sang, de venir nombreux à la banque de sang pour donner un peu de leur sang. C'est une façon de dire à nos militaires que nous sommes avec eux, nous les soutenons à donner un peu de notre vie, un peu de notre sang. Le moment est arrivé de faire l'acte de charité, l'acte de solidarité. Nous devons être derrière nos militaires. Nous soutenons nos vaillants militaires en donnant un peu de notre sang. Nous invitons les potentiels donneurs, les nouveaux donneurs, la population. Venez, soyez nombreux.
Une autre manifestation de soutien au FRDC, c'est cette marche organisée hier par une organisation ad hoc de la société civile de l'Ituri dénommée Allez-y FRDC et aussi le parti politique UDPS. Les manifestants sont partis de la place Robank en passant par Fina vers Yambiyaya pour chuter au niveau du rond-point Sonas où une déclaration a été lue par les organisateurs. Selon le coordonnateur du collectif Allez-y FRDC, le but de cette marche était d'appeler le gouvernement congolais à doter les militaires des moyens conséquents pour combattre l'ennemi qui menace l'intégrité nationale. On écoute un extrait de leur déclaration lue ici par Jean-Jacques Oupenji, extrait recueilli par Ezekiel Mousalien.
Nous témoignons notre soutien total au commandant suprême pour mettre fin à travers toutes les démarches qu'il est en train de mener pour mettre fin au conflit qui ronge notre province depuis 25 ans. Aux groupes armés de cesser immédiatement avec les attaques sur la population et au FRDC pour que notre armée puisse en découdre avec le Rwanda et M23 ainsi que les ADF qui endeuillent notre province de l'Ituri ainsi que celle de Nord Kivu, de déposer les armes sans condition et de s'enrôler dans le processus de paix de DRCS, de cesser de pillage des biens des populations, aux communautés, de cesser tout soutien aux groupes armés et autodéfense.
Et puis sur le plan international, notez que le Conseil de sécurité condamne tous les groupes armés qui opèrent dans l'est de la RDC. Dans une déclaration parvenue à Radio Okapi ce samedi, le Conseil de sécurité appelle ces groupes armés à participer sans condition au dialogue interne à la RDC ouvert par les présidents Félix Tshisekedi de la RDC et Uhuru Kenyatta du Kenya. Paul Matendo.
Le Conseil de sécurité condamne notamment les M23, la coopérative pour le développement du Congo, les forces démocratiques alliées, les forces démocratiques de libération du Rwanda, Red Tabara, les groupes Mai Mai et plusieurs autres groupes nationaux et étrangers. Dans la même déclaration, le Conseil de sécurité condamne également les attaques récemment perpétrées contre les FRDC et la MONUSCO et demande aux groupes armés nationaux de mettre immédiatement fin à toute forme de violence, de sédition, définitivement de déposer les armes et de participer au programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation. Les conseils de sécurité exhortent aussi les groupes armés étrangers présents au Congo à se désarmer et à retourner immédiatement dans leur pays d'origine respectif. Par ailleurs, ils constatent les progrès accomplis dans la réalisation des engagements nationaux et régionaux pris au titre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région et engage les pays de la région à tirer parti de l'élan actuel pour avancer encore dans les règlements des problèmes qui font obstacle à la paix et au développement durable. Il engage également les partis à poursuivre leurs efforts visant à désamorcer les tensions et à s'abstenir de toute déclaration incendiaire et de toute incitation à la violence.
Retour dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Lubero, où on signale une insécurité récurrente vers la côte ouest du lac Édouard, groupement Luongo dans la chefferie des Baswaga. Les autorités administratives locales à Mubana Bukununu alertent sur la création d'une nouvelle faction Maïmaï qui insécurise la région. Elles en appellent à l'intervention des autorités provinciales pour restaurer l'autorité de l'État. Denise Lukeso.
Ces nouveaux groupes Maïmaï, dont les noms et les chefs ne sont pas encore connus, a vu le jour depuis le mois de février dernier, selon le chef administratif à Mubana. Cette milice a installé son quartier général à Kaviniro, c'est à environ une cinquantaine de kilomètres au nord-est du chef-lieu du territoire de Lubero. D'après toujours ce chef, ces mouvements occuperaient plusieurs villages environnant son quartier général, Boulambolak, Kaoulilak, où il aurait occupé momentanément les bureaux de la localité. D'autres localités telles que Vuvuyelak, Kiribata sont sous menace de ces miliciens qui ont comme arrière-base Mwikia, Kaviniro, Foreka Birimu, Kandolé et Bianzé. Monsieur Mumbere Amini parle d'exactions multiples commises par ces groupes.
Des rebelles sont en train de s'augmenter du jour le jour dans l'entité. Ces rebelles sont devenus nombreux. Quand ils ont envahi cette partie, ils ont commencé à demander des différentes taxes exorbitantes à l'endroit de la population. Il y a eu même des arrestations arbitraires, voire même des tracasseries qu'ils sont en train de commettre partout où ils passent.
Monsieur Mumbere ajoute que la côte ouest du lac Édouard est devenue un véritable mouroir pour différentes factions Maïmaï. Goma, Denise Luque sur Radio Okapi.
Depuis hier 3 juin, les travaux de la pré-revue à mi-parcours de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation au Sud Kivu. Cette pré-revue connaît la participation des cadres provinciaux des 4 ministères sous-sectoriels de l'éducation, notamment les PST, les SU, le ministère des Affaires sociales et celui de la formation professionnelle et métiers. Ensemble, ils devront produire un document unique à présenter à la revue à mi-parcours de la SSEF, stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, qui se déroulera au mois de septembre. Le chef de la province éducationnelle Sud Kivu 1, Simon Zono, est au micro de Rachel Kisimbangu.
Nous nous retrouvons pour dresser le bilan, jauger les progrès réalisés par rapport à la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation depuis 2016. Et au vu des résultats que nous aurons engagés, nous allons formuler des perspectives pour les 3 années à venir, de 2023 à 2025. Et nous allons analyser au cours de cette pré-revue provinciale la coordination, les résultats que nous aurons eus à l'issue de ces assises seront envoyés à Kinshasa pour alimenter la revue à mi-parcours de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, document de référence de tous les 4 ministères qui ont en charge l'éducation des enfants, dont les travaux vont se dérouler au mois de septembre 2022 au niveau national.
Dans la province du Maniema, c'est hier 3 juin que la division provinciale du genre, famille et enfants en partenariat avec la GIZ a pu procéder à la vulgarisation du plan stratégique et du plan opérationnel de l'inclusion de la femme du Maniema au poste de prise de décision, une œuvre obtenue grâce aux efforts fournis par les femmes leaders de cette province. Florence Kizalunga.
Ces travaux, débutés depuis le mois de novembre 2021, ont abouti à la grande satisfaction des femmes leaders, des autorités et de leurs partenaires, comme en témoigne Madame Kapunga Sifaya, chef de division du genre, qui fait cette recommandation.
Que toutes les autorités politico-administratives puissent s'approprier cette stratégie, parce que c'est un outil qui va permettre à la femme du Maniema de pouvoir émerger. Et nous leur avons demandé de pouvoir budgétiser toutes les actions de cette stratégie.
Une satisfaction exprimé également par l'Agence de coopération allemande GIZ, partenaire de ces travaux.
Dans la conservation de la nature, l'homme et la femme participent tous à la destruction de la nature. Si on décide d'impliquer seulement l'homme, or on dit que les femmes sont nombreuses que les hommes, ce qui signifie que l'atteinte des objectifs sera difficile. Les mieux pour l'atteinte d'un objectif durable, je vous sensibilise d'impliquer tous.
L'autorité provinciale a quant à elle rassuré tout le monde de la mise en œuvre de ce plan.
Nous en sommes très conscients que les efforts importants restent encore à fournir. Et à cela, les portes de l'autorité provinciale sont grandement ouvertes pour toutes les initiatives tendant à promouvoir les genres.
Kindo, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Enfin, notez que la Confédération africaine de football CAF a reprogrammé ce samedi le match RDC-Gabon à 20h temps universel, soit 21h heure de Kinshasa. Initialement prévu à 16h temps universel, les Gabonais ont sollicité cette reprogrammation car ils atterrissent ce même samedi à 16h30 à Kinshasa. Comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2023, cette rencontre se joue au stade des Martyrs de Kinshasa. Juste après ce match, les Léopards de la RDC iront à Khartoum où ils croiseront les Soudanais le mercredi 8 juin, un match de la deuxième journée des 16 éliminatoires. La phase finale de la CAN 2023 se jouera, vous le savez, entre janvier et février 2023 en Côte d'Ivoire.
Actualité internationale.
Au Tchad, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, s'est rendu à Kouri Bougoudi, dans l'extrême nord du pays à la frontière libyenne. C'est dans cette localité que se pratique l'orpaillage clandestin et où ont eu lieu, il y a une dizaine de jours, des affrontements qui ont causé une centaine de morts. Depuis, l'armée s'est déployée sur le site pour sécuriser les lieux.
L'invité.
Les rencontres d'Ishang ont été lancées hier vendredi à Goma, au Nord Kivu, connu depuis plusieurs années sous l'ancien nom de Salam Kivu International Film Festival, ce qui fait en sigle. Elles sont organisées par le centre culturel Yole Africa sous le thème Adisi na Ecologia, traduisé l'histoire et l'écologie. Cet événement réunit pendant 10 jours les artistes de plusieurs pays, les chercheurs et la communauté pour analyser la contribution de l'art dans la construction de notre société d'aujourd'hui. Nous recevons pour en parler le directeur artistique de ces rencontres, Pet Nandaliko. S'entretient avec Rosalie Zawadi.
Maintenant, Daliko, bonjour.
Bonjour, ma sœur.
Vous lancez ce vendredi les rencontres d'Ishango à Goma. Pourquoi aller des skiffs aux rencontres d'Ishango?
Nous sommes partis des skiffs à Ishango parce que tout simplement, il était temps que l'on commence à valoriser les savoirs qui sont produits ici chez nous. Quand on a commencé le projet, que ce soit SKIF et SIF, nous, on voulait aussi rester un tout petit peu dans le discours global, le discours international. Nous avons compris, en fait, que notre approche était déjà originale depuis le début et que ça ne valait pas la peine de rester dans cette logique de festival. Pour nous, c'était plutôt, on s'est rencontrés pour trouver des solutions aux problèmes que notre société traversait. Et à cela, retourner à Ishango comme le symbole carrément de la connaissance indigène. Hein, quand on parle de l'os d'Ishango, la plus vieille calculatrice mathématique. Donc, pour nous, c'était une logique de retourner vers ce débit de connaissance pour devoir, n'est-ce pas, imaginer d'autres possibilités d'organisation d'une vie sociale.
Quel est le thème général de ces rencontres?
Le thème général, on a dit, c'est Adisi na Ecologia, c'est-à-dire c'est comment raconter une histoire mais tout en tenant compte des enjeux écologiques. Pourquoi cela est si important pour nous? Parce que nous partons du proverbe d'Al-Kebulan, hein, où on dit que le monde était construit par des histoires. Et le peuple s'adapte aux histoires auxquelles elle est confrontée tout le temps. Et si nous, on doit s'adapter aux histoires des autres, c'est-à-dire on n'aura jamais notre propre histoire à nous. Et pour cela, la façon dont nous devons construire l'histoire, la façon dont nous devons consommer les images, joue beaucoup à notre devenir. Pour jouer déjà ce grand rôle sur le devenir de nos peuples, nous devons nous approprier ce récit historique, comment le raconter et quand le raconter.
Quelles sont les activités qui vont meubler ces rencontres d'Ishango?
Plusieurs films, il faut que les gens viennent voir. Et tous ces films-là, leur particularité, ce que c'est au fait, c'est des films qui questionnent même le langage cinématographique. Vous savez, même que ce soit comme je parlais de comment raconter l'histoire, tout le langage cinématographique a été créé sans l'apport de l'Afrique. On parle de plan américain, on parle de plan italien, on parle de tout ça. On n'a jamais parlé d'un plan, je ne sais pas, congolais, ou un plan Hundé, ou un plan, je ne sais pas, Tutsi. Créer même ce langage-là a été adapté aux cultures. Parce que lorsqu'on parle de plan américain, c'est par rapport au colt que les cowboys peuvent porter. Et la question que moi je pose souvent à mes étudiants, c'est de savoir, alors, quand une maman porte l'enfant au dos, comment est-ce qu'on va appeler ce plan-là? Donc, c'est-à-dire, on ne se retrouve même pas dans ce langage-là, et chaque fois, on voit les gens filmer en train de dire ce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'il y a l'aspect psychologique de l'image. Voilà. Et c'est tout ça, l'apport de tous ces films. Ils vont ramener aussi ces discussions à la table où nous tous, on va discuter de comment raconter carrément l'histoire. Il y a le film de Toshi, que je trouve vraiment trop spécial. Elle vient du Japon, et elle aussi, elle est fascinée par la question de la décolonialité. Il y a le film Stop Filming Us de Bernadette et de Kagoma, qui, en fait, c'est une reprise d'un film tourné par un Hollandais, ici à Goma, mais qui n'a pas plu aux jeunes de Goma. Et ils ont retourné ce film avec maintenant un œil critique. Et c'est vraiment fascinant. Le film a beaucoup de succès en Europe. Je crois que le film aura aussi assez de succès ici parce que cela épingle et parle de vraiment du problématique de la représentation. Il y a aussi le film de Maïcha Maene, Moulika. Le film était tourné dans le cratère du volcan Nyiragongo aussi par un jeune de Goma. Et je trouve que c'est un film fascinant parce que c'est un film qui se projette dans le futur. Donc Goma dans 2050. Vous voyez, donc déjà nous commençons à aborder des thèmes qui étaient un petit peu tabous ici chez nous. Mais voilà, les films sont là et il y a des ateliers, des rencontres, des discussions autour de ce même thème aussi.
Selon les programmes, les projections des films vont commencer à 18h. Il y a les couvre-feu à Goma. Comment ça va se passer exactement?
Nous croyons que c'est le meilleur moment au fait d'avoir ce genre d'événement. Lorsque nous avons commencé Skiff, personne ne fréquentait Goma la nuit. Oui, on se dit aujourd'hui, si l'artiste sait parler de la paix, en tout cas dans cette région, on y est pour quelque chose. Oui, et si dans l'état de siège, nous ramenons des activités encore de nuit, ou les réflexions de comment organiser la société vont se mettre en place, je crois que ça pourra être même bénéfique à ceux qui troublent la quiété de la population. Et aussi, nous allons mettre des moyens de transport vers 20h30 qui vont devoir ramener les gens.
Petnin Dalico, merci.
Ça a toujours été un plaisir de parler avec vous.
C'est la fin de ce journal. C'était à la présentation Noéla Luzitu Kabambi et à la mise en onde Alain Goy, un journal confectionné avec l'aide de Pierrot Elamenji et de Blaise Ndongala Mayanda. Restez à l'écoute des programmes de Radio Okapi, la fréquence de la paix.